Et en ce quatrième jeudi du mois, place à la carte blanche de Catherine Decopé. Elle a choisi ce mois-ci de vous faire découvrir les premiers pas d'une recherche originale autour de plafonds peints datant du Moyen-Âge. Alors il s'agit de peintures que l'on a retrouvées ces dernières années sur les plafonds de maisons médiévales, principalement dans le Languedoc-Roussillon, grâce au soutien de la DRAC. Des peintures colorées, souvent intactes, qui ont traversé les siècles parce qu'elles étaient cachées sous des faux plafonds ou dans des couches d'enduit. Et elles nous apprennent qu'à la fin du XVe siècle, toute une iconographie domestique et populaire s'est développée. Et si les premiers travaux sur ces plafonds remontent aux années 1970, eh bien ce n'est que dans les années 2000 que cette recherche a pris son essor, à l'instigation notamment de Monique Bourrin, professeure d'histoire du Moyen-Âge. Aujourd'hui à la retraite, vous allez l'entendre, les images retrouvées ont de quoi surprendre, des scènes de la vie quotidienne, mais aussi des histoires crues, voire obscènes. Et oui, alors sans plus attendre, mais partons sur le site dans les le site de Capestang, grâce aux analyses de Monique Bourrin, mais aussi aux analyses de Pierre-Olivier Dietmar. Il est historien de l'art, spécialisé dans l'anthropologie des images au Centre de recherche historique de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Et c'est à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris que Catherine Decopé les a rencontrés.
La première chose qu'on voit, c'est sans doute une alternance de couleurs. C'est des plafonds qui étaient extrêmement colorés, avec souvent des alternances de rouge, de bleu, de rouge, de vert. Donc on a tout un facettement de couleurs qui allait avec ce qui se passait aussi sur les murs, où il y avait des tapisseries, avec des motifs souvent très chargés, sur les sols également. Donc c'est une décoration très vive, très, très chargée.
Et les poutres également ?
Les poutres voilà, sont également chargées de motifs. Là aussi, jouant sur des alternances chromatiques très, très vives. Et au milieu de tout ce chatoiement, il y a des images qui racontent des histoires ou qui montrent des personnages et qui sont des points d'intensité, disons, dans le décor et qui sont aussi des endroits où peut se donner l'identité de la personne qui a commandé ce plafond de façon plus claire. Donc c'est des images qui sont assez petites, mais qui sont situés juste sous plafond, inclinés vers le sol. Donc on les voit très bien quand on est depuis le sol. Et le fait qu'elles soient situées en séquence entre les poutres donne des dimensions qui fait penser à la bande dessinée aujourd'hui de petites vignettes qui peuvent se succéder pour faire des micro-histoires.
Monique Bourrin, là on est face à une dizaine d'images qui provient donc du site de Capestang. Ces images ont été découvertes relativement récemment ?
Oui, c'était celles qui étaient cachées sous le faux plafond, ce qui explique que la couleur en soit particulièrement vive. On savait qu'elles existaient parce que l'un des Capestanais avait, au péril de sa vie, grimpé sous le plafond. Donc on en avait une idée photographique, mais on les a découvertes donc en 2008 seulement.
Pierre-Olivier Dietmar, qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce que vous pouvez nous dire simplement déjà ce qu'on voit, peut-être, en quelques mots ?
Peut-être on peut dire où est-ce qu'on se trouve, parce qu'on se trouve juste au-dessus de la cheminée de cette pièce, qui est normalement l'endroit le plus honorifique, l'endroit où le maître des lieux, qui était donc l'archevêque de Narbonne, devait effectivement se situer, peut-être, lorsqu'il venait résider ici. Et on a face à nous des images qui sont surprenantes pour la maison d'un ecclésiastique, puisqu'on a deux hommes visiblement en train de combattre. On a un couple d'amoureux, un être, une créature fantastique. On a un fou qui montre ses fesses, et face à lui, il y a un homme en train de souffler dans une trompette. Ces deux images fonctionnent ensemble, puisqu'il y a une espèce de lutte des souffles entre le pet du fou et le souffle de la trompette. Et c'est des images qui renvoient à un rituel connu dans la région, qui est un rituel du carnaval, qui est la danse des souffles-écus, où on fait ce genre de choses. Ensuite, il y a une image qui est très étonnante pour nous, qu'on n'explique pas encore vraiment, qui est l'image d'un homme en train de faire un geste, sans doute proche d'une bénédiction, face à un escargot qui le regarde. C'est une image qu'on ne comprend pas pour l'instant. Encore un couple d'amoureux. Et puis on a un chien en train de poursuivre un lapin.
Alors quand vous dites un chien en train de poursuivre un lapin, il y a deux images en fait.
Voilà, donc on a deux closoirs qui sont séparés. Il y a sur un chien en train de courir, et face à lui, un lapin qui se retourne et qui regarde en direction du chien.
Alors que comprendre du sens de ces images-là pour un archevêque ? Il n'y a aucun symbole ecclésiastique, religieux, Monique Bourrin ?
Non, il y en a objectivement très peu, quatre finalement. En revanche, presque dans chaque image, il y a un message moral. ce message moral qui est incarné notamment par l'hybride à tête d'humain et à corps animal, et qui rappelle en permanence que l'être humain est un être qui est pris entre les instincts animaux et l'âme.
Est-ce qu'il y a des plafonds donc, que vous avez étudiés où là on se demande vraiment pourquoi telle image dans telle maison, Pierre-Olivier Dittmar ?
Il y a plusieurs cas qui nous intriguent beaucoup. Bon, c'est quand même le cas Capestan. C'est pas évident de savoir pourquoi on représente des hommes en train de péter dans au plafond d'un archevêque.
En même temps, vous dites que c'est une coutume locale. Alors, est-ce que c'était une manière de dire j'appartiens à ce territoire, par exemple ?
C'est peut-être ça. C'est peut-être quelque chose qui le faisait rire. Et l'humour a beaucoup d'importance dans la culture médiévale. On n'a pas du tout de problème avec ça. On est heureux de mettre des images qui font rire les visiteurs. C'est une façon agréable de les accueillir. Et les images de chasse, c'est intéressant aussi parce que théoriquement, l'archevêque n'a pas le droit de chasser. Mais c'est le sport favori, disons, de l'aristocratie. Et là aussi, il s'inscrit dans une logique qui est familiale, qui est pour montrer son rang. D'ailleurs, peut-être chassait-il, j'en sais rien. Ça oblige en tout cas, et c'est un des bons exemples de l'intérêt de ces images pour nous, à reconsidérer de façon assez radicale qu'est-ce que c'est un curé à la fin du Moyen-Âge. Et de faire des clichés qui nous viennent souvent du 19e siècle pour penser une situation sociale qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait avant. Mais...
Pierre-Olivier Dittmar, il y a l'idée de se distinguer par ses plafonds. Et alors vous allez même jusqu'à dire qu'il y a cette idée de réseau social médiéval.
Oui, parce que la question était quelle est la nature du lieu où on montre ces images-là. Et donc c'est un lieu qui n'est pas un lieu public puisque ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas non plus un lieu complètement privé, un lieu de l'intimité comme le serait à l'intérieur du 19e. C'est un espace où on reçoit des gens, c'est un lieu de réception, un lieu de représentation, mais on reçoit des gens qui sont privilégiés, que l'on laisse entrer. Et cet espace intermédiaire me fait penser effectivement aux pratiques sur les réseaux sociaux, sur Facebook aujourd'hui, où on présente son identité à des cercles relativement restreints, mais qui sont choisis. On va présenter, comme sur les réseaux sociaux aujourd'hui, des choses qui éventuellement nous font rire, des gens que l'on reconnaît comme étant des modèles. Donc on va retrouver ici les armes du duc de Bretagne, du roi de France, donc des grandes personnalités qu'on n'a pas rencontrées. On peut également montrer son réseau social, ses amis, par des armoiries. Donc c'est les amis de la famille qu'on va représenter, avec qui pour montrer aussi la force de son réseau. Ces différents éléments font effectivement penser à ce qui se développe depuis quelques années sur les réseaux sociaux.
C'était un reportage de Catherine Decopé. Merci à Pierre-Olivier Dittmar et Monique Bourrin. Et puis sachez que parmi les images les plus surprenantes de ces plafonds, on en trouve une qui représente une prostituée en train de se raser le pubis. Mais alors le plus surprenant, c'est que cette image a été découverte dans un ancien presbytère. Voilà, beaucoup de mystères à comprendre encore. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces images, les voir aussi, rendez-vous sur le site de la Marche des Sciences, franceculture.fr. Et vous trouverez des liens vers les travaux des chercheurs. Et puis l'émission, vous pouvez la télécharger pendant un an et l'écouter. Écoutez, pendant 1000 jours, elle est ouverte aux commentaires.